Rick White, here's Radulov with a chance. Scores! Alexander Radulov.
Wow. Wow, wow, wow. Bruno Gervais qui est avec nous. Salut, mon Bruno.
Salut, Mario.
Hey, c'est un beau son, ça. Remets-moi ça une autre fois. Here's Radulov with a chance. Bang! Hein? C'est le fun.
Ça, là, c'est une question de perception, Mario. Ça dépend, puis qui sur la glace. Ça peut être un super beau son ou ça peut être un cauchemar. Parce que t'entends le ping, là, t'entends juste c'est quoi la réaction après. Est-ce que là, ça continue ou c'est la lumière rouge qui s'allume?
Oui, t'as raison, parce que je me souviens d'un autre son de poteau que j'avais moins aimé. C'est c'était quand donc? C'était pas en série. Shea Weber qui avait frappé le poteau. C'est la dernière fois que le Canadien... Oui, je pense que c'est la dernière fois que le Canadien avait joué en série. En fin de troisième période, à un moment donné, Weber avait envoyé un laser. Bang! Ça avait frappé le poteau. Puis le Canadien s'était incliné. Mais en as-tu scoré des buts, Bruno? Peu importe, là, même bam-tam. Tu sais, honnêtement, quand elle touche le poteau et qu'elle entre à l'intérieur, avoue que c'est, ça fait un but signature, hein?
Ah, ben oui, c'est le lancer parfait. C'était... À la limite d'où tu pouvais aller, là, que ça frappe le poteau, là, tu parles de millimètres, là, que ça frappe le poteau et que l'angle soit parfait, que ça rentre dans le filet, c'est le plus beau son. Il y a comme une, c'est une mini fraction de seconde qui a, t'as l'impression qu'il y a comme un silence après le ting. Entre le ting et le but,
oui.
c'est miniature, mais ça veut tout dire. C'est cette espèce de silence, de suspense-là. Puis là, quand ça touche les cordages, la lumière rouge allume. C'est juste assez... ça rend le but encore plus spécial.
Tu peux pas rien dire contre Lehner. Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire « Ah, Lehner aurait pu arrêter ça? » C'est vraiment un tir parfait.
Ben, moi, la seule question que j'ai... Non, c'est un tir parfait de base. Il a fini la troisième période. Je sais pas si tu l'as vu partir
oui.
en troisième période.
Oui.
Bain, il avait l'air en douleur. Je ne sais pas à quel point il aurait été capable de performer en prolongation. Ça s'est réglé très rapidement. Peut-être une bonne chose pour lui, pour aller se reposer ou pour les deux équipes, mais le lancer était parfait. Je l'ai trouvé un peu moins agressif et vif. Il est tout le temps sur sa jambe droite. T'sais, il est très, très, très rapide avec sa jambe droite. C'est comme, tu vas le voir souvent, il y a des lancers, il garde sa jambe gauche levée avec sa mitaine. Puis sur celui-là, je l'ai trouvé, il voulait se faire frapper par la rondelle, un peu moins explosif dans son mouvement. Mais il faut rien enlever au lancer de Radulov, qui est un lancer quasi parfait. Dans l'angle qui s'en venait, de placer ça entre la jambière, la hauteur de la jambière et le bouclier du côté opposé. C'était parfait. Puis regarde, tu vois, c'en était un qui était tanné. Il voulait que ça se règle. Quelques secondes en prolongation. Merci, bonsoir. On s'en va au match numéro 4.
Oui, et j'étais bien content, ne serait-ce que pour avoir une série, parce que quand tu es dans le carré d'âge, tu veux que en avoir la preuve que c'est vraiment les quatre meilleures équipes du moment dans la ligue. Tu une équipe qui se fait balayer, à moins que ce soit tous des matchs en prolongation, là, ça peut être. Il y a bien des façons d'avoir. Tu peux perdre une série 0-4, mais tu peux avoir été dans le match à chaque match, donc tu n'es pas vraiment si loin du calibre de l'autre équipe. Mais on veut des séries enlevantes, on veut des séries comme au basket qui s'en vont dans un match numéro 7 ce soir, Bruno.
Tu as entièrement raison. Moi, depuis le début, je suis rassasié du niveau d'intensité, du niveau de jeu. J'appellerais pas ça un laisser-aller, mais il y a cette espèce de côté fou, sauvage, wild là, qu'on pourrait appeler,
oui,
de ces séries-là. Mais c'est des gars, présentement, le rythme aux deux jours, l'intensité qu'il y a là, ça devient demandant. Le fait d'être dans une bulle mentalement, c'est quelque chose, c'est très particulier, ces séries-là. Il y en a beaucoup qui parlaient d'un Astérix à côté de ces séries-là pour dire « Ah, c'est différent, c'est pas la même chose. » Moi, j'aurais aucun problème qu'un Astérix à côté de ces séries-là pour dire que ces séries ils ont été encore plus difficiles que les autres à gagner à cause de tout ça, à cause des circonstances, à cause des matchs qu'il y a eu avant cette préparation-là. Puis c'est très intense. En tout cas,
serais-tu d'accord pour dire, parce que je disais ça, puis c'était pas une façon de dévier ou de ne pas entendre ceux qui disaient que c'était difficile dans la bulle, mais qu'à la fin de tout ça, comme en dehors d'une bulle, c'est plus fort sur la glace, plus fort mentalement qu'ils vont gagner?
Entièrement. Il y a aussi le côté chance, parce qu'il y a les blessures.
Ouais,
il y a le côté les plus forts mentalement, ceux qui vont être résilients, parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est long, c'est éprouvant. Puis d'être capable à tous les jours de te craquer. Et oui, les gens vont dire, mais oui, c'est pour la Coupe Stanley, c'est sûr, c'est facile. C'est match après match, tu es en douleur, puis c'est à chaque match, il faut que tu te fasses geler en quelque part parce que tu es en douleur ou tu t'essayes juste de te replacer le corps physiquement pour être capable de patiner. Puis il y a des gars présentement qui dealent avec des blessures qui normalement, en saison régulière, tu prendrais un repos. C'est pas évident. Jour après jour, des fois, tu as besoin d'aide pour cette adrénaline-là quand ça fait des semaines et des mois que tu es là. Et c'est là que la foule embarque. C'est là qu'il y a un élément externe habituellement qui peut t'amener cette adrénaline-là, t'aider pour ça. Puis là, ils l'ont pas cette année. Fait que là, c'est pur, c'est dur, c'est la passion, c'est l'intensité. Puis tu le vois, il y a des gars qui ont eu de la difficulté, il y a des gars qui ont sous-performé dans les conditions de la bulle. Puis il y a des gars, on le voit dans les quatre équipes qui sont là, qui c'est des équipes qui étaient prêtes à tout faire. On le voit match après match. Je sais pas si les Stars de Dallas, la façon qu'ils sont prêts à bloquer des tirs,
oui.
C'est un alignement, une formation là, qui est remplie de joueurs qui se présenteraient sans équipement devant une rondelle. Ça commence à paraître.
Ça en dit long, puis il y a quelque chose de beau à voir là-dedans. Juste une petite parenthèse supplémentaire sur Radulov, parce que je pensais à toi, parce que j'ai aimé chacune de tes analyses de Radulov, parce que t'amenais le beau côté de lui, puis aussi les côtés qui donnent des cheveux gris aux entraîneurs. Puis t'as insisté sur les cheveux gris lors de notre dernière conversation. Puis là, ben quand je l'ai vu marquer en prolongation, j'ai dit, faut que je reparle à Bruno de ça. Fait que finalement, là, je veux dire, tu sais, c'est ça, il est moins deux, pareil, d'un série dans l'ensemble. Il y a 8 buts, 4 buts gagnants, 2 en prolongation, fait que... Es-tu dans ton club ou tu le laisses aux voisins? C'est une éternelle question.
Ah, oui, c'est une éternelle question et c'est une éternelle bataille jour après jour pour le groupe d'entraîneurs, les gens, les coéquipiers, le monde qui sont là pour avoir le meilleur de lui, parce que quand il joue à la hauteur de son talent, il fait comme au dernier match. Il a eu de super bonnes séquences offensivement. Il a aidé son équipe. Il était impliqué. Il était beaucoup plus discipliné. Il était dans le match. Je ne sais pas si tu as vu la fin du match là, à 2 secondes quand Jamie Benn a décidé de lancer sur Robin Lehner.
Oui.
Il était fin seul. Il s'était placé. Il était là. Il a été présent toute la glace. Si Benn le voit et glisse la rondelle, c'est un but facile. Mais si on revient au match numéro 2, ben, là, il a fait mal à l'équipe.
Ben oui, des punitions.
C'est une grosse nuisance, mais tu le retournes. Puis tu fies sur lui. Puis ça,
mais souviens-toi, Kovalev, tu te souviens-tu, oui, de la série On recule de bien des années, là? Tu sais, quand il y a une collision en ligne bleue, puis là, il arrête de jouer momentanément,
Boston, oui.
Boston, et il perd le match. Puis là, c'est sûr que tout le monde paraît mal, Kovalev paraît mal, tout ça, mais tu sais, il revient, puis il est le moteur des prochaines victoires. Tu sais, je te compare pas Radulov à Kovalev, mais tu sais, c'est le genre de critique qu'on va émettre envers ces gars-là, souvent des Russes, mais tu sais, des joueurs parfaits, même des Américains, mais des Canadiens, il n'y en a pas bien dans la ligue, Bruno.
Ah, t'as entièrement raison. Et j'ai appris ça rapidement. J'ai terminé ma carrière junior comme entraîneur. Je m'étais blessé au genou au camp de l'équipe Canada et j'ai terminé comme entraîneur derrière le banc. Mon équipe junior m'a fait signer le contrat d'entraîneur et j'ai adoré cette expérience-là. Et c'est une des choses que j'avais appris à l'époque de Réa Paiement et Sylvain Couturier, le papa à Sean Couturier. C'était le fait qu'il faut tout le temps que tu mettes ça dans la balance. Tu saches qu'est-ce que le joueur peut m'amener, c'est quoi son plafond et qu'est-ce qu'il peut me coûter. Un peu comme en comptabilité, tu essaies de faire les plus et les moins, puis c'est la dernière ligne en bas. Si c'est dans le vert, c'est correct, tu le gardes, tu continues. Si c'est dans le rouge, ben c'est là que tu passes à d'autres choses. Et Radulov continue d'en amener assez pour payer les factures. C'est ce qu'il fait. La veille, c'est que tu veux voir ces gars-là avec de l'orgueil. Tu veux voir ces gars-là capables de rebondir, faire face à l'adversité. Ce que Kovalev a fait, il y a bien des joueurs... Après la séquence, quand il a reçu le coup de bâton de Murray, l'échappée qui mène à la victoire des Bruins de Boston, il y a des joueurs de n'importe quelle nationalité, là. Je vise pas les Russes, au contraire, n'importe quelle nationalité qui se serait écrasée sous cette espèce de pression-là. Lui a l'orgueil de répondre et a le talent pour prendre le contrôle d'un match. La même chose avec Radulov. Après le match numéro 2, je suis certain, on le voyait avec son langage corporel pendant le match, il était extrêmement frustré. Comment il sort au match numéro 3 en dit beaucoup sur lui. Arrive au match numéro 3 et était dans son match, voulait faire la différence, puis ça l'a paru dans le match, a aidé l'équipe, a aidé les Stars de Dallas à aller gagner un match. Fait que là, tu te dis, OK, ben gars, là, ça continue à en donner. Fait que tant ou si longtemps qu'il est capable de rebondir comme ça, ça vaut la peine.
Quand t'as plein de bons joueurs, puis t'as pas besoin d'embaucher ce gars-là, tant mieux si t'as bien repêché, puis ci, puis ça, puis tu sais, t'as pas besoin de courir après du monde, mais quand t'en cherches depuis des années, puis tu l'as, ben c'est même avec ses défauts, qu'est-ce que tu veux, tu vas vivre avec, parce que t'as pas ben d'autres joueurs vers qui te tourner. Parlant d'autres joueurs, Bruno, j'avais envie de te parler du fait que si Tampa Bay devait gagner la Coupe Stanley, se rendre en finale et gagner, on verra, là, c'est pas fait, mais crois-tu que ils vont examiner sérieusement la possibilité de laisser aller Steven Stamkos. Stamkos, ils sont capables de gagner sans lui.
Ben, c'est, ça me fait penser à la situation de Drew Bledsoe et Tom Brady il y a plusieurs années avec les Pats.
Oui.
C'est ce qui est arrivé. C'était l'équipe à Steven Stamkos. C'est un excellent joueur de hockey. Mais son absence a fait briller une future super vedette de la Ligue nationale en Braden Point. S'il peut rester en santé, c'est tout un joueur de hockey. Fait que oui, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, où je veux investir mon argent, comment je veux faire les choses. Tu commences à être très solide au centre comme équipe. Tu as même un Cirelli qui commence à développer dans son rôle, un peu à la Philippe Dano, exemple, lui. Et tu as Braden Point qui est capable d'en amener offensivement, mais qui est très responsable défensivement. Tu peux bâtir une équipe un peu plus avec cette identité-là. Et ça te permet d'investir ailleurs avec le contrat de Braden Point. Il va être une aubaine, lui, pour les deux prochaines années, c'est certain, autour de 6 millions.
Et eux autres ont un problème de gestion de masse salariale. Le plafond n'augmente pas et je te laisse poursuivre ta réponse.
Oui. Ben exact. C'est que là, le plafond n'augmente pas. Je suis certain qu'au moment de faire certaines transactions ou certaines signatures, tu espères gagner un certain pourcentage d'année en année. Là, ça va être plus difficile. Ils ont toutes fait leurs transactions et ils ont placé leur bille pour 2 ans. Donc, il y a cette année, l'année prochaine, que ça peut être quand même bon comme équipe ou, mettons que le casse-tête n'est pas trop compliqué. Mais après ça, ça se complique. Puis c'est là que c'est une vraie question à poser. Et tu viens de le dire, c'est que le Lightning continue puis ils viennent atteindre leur but à gagner la Coupe Stanley. Mais là, c'est un gros salaire que tu peux libérer, que tu sais que tu as encore des bons jeunes, encore très bien repêchés.
Et la question suivante, Bruno, je t'arrête dans ta réponse généreuse sur Stamkos et Tampa Bay pour t'amener à dire, est-ce que, apparemment, selon l'agent de Brendan Gallagher, Marc Bergevin cherchera un ailier droit capable de produire des buts. Il y en a qui parlent de Winnipeg qui voudrait se départir de Laine, qui est plus jeune, mais Stamkos à 30 ans, c'est un gars que tu regarderais-tu sa candidature sérieusement? Puis je te pose la question, moi j'ai des doutes quand je regarde l'impact de Tavares avec les Leafs. Je me demande si Taylor Hall peut vraiment avoir un impact considérable sur l'équipe qui va aller le chercher. Mais Stamkos à Montréal, est-ce que c'est une idée sur laquelle tu aimerais travailler?
Oui, beaucoup. C'est un excellent joueur de hockey. C'est quelqu'un qui a appris d'un des grands compétiteurs du hockey en Martin Saint-Louis. Martin l'a vraiment pris sous son aile à Tampa Bay. C'est un de ceux-là qui comprend très, très bien l'avantage numérique. J'adore le fait aussi qu'il serait droitier pour ce genre de situation-là. J'adore le fait qu'il amène un certain statut au niveau offensif à l'équipe. C'est un patineur explosif. Il y a beaucoup, présentement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur sa condition physique ou son état de santé avec tout ce qui se passe. Mais selon moi, c'est le genre de joueur d'impact qui a quand même signé une entente raisonnable avec le Lightning à l'époque, qui pourrait rentrer dans ce que le Canadien veut faire. Et oui, c'est sûr et certain que c'est moi qui est en poste, que les souliers de Marc Bergevin, je regarde longuement la situation et je sais que le Lightning est une équipe qui est prise au coup un peu avec le plafond salarial. Alors, je me pose des questions. Comment je peux aider le Lightning? En retour, je me retrouve avec un Steven Stamkos dans le bleu, blanc, rouge. Ça pourrait être très intéressant pour les deux parties.
Content de t'avoir entendu là-dessus, Bruno, et je te souhaite une excellente fin de semaine. Bon match ce soir.
Bon match ce soir. Bonne fin de semaine, Mario. À bientôt.
Merci. À très bientôt. Bruno Gervais qui était avec nous, lui qui a bien connu, bien sûr, Steven Stamkos et qui nous donnait son opinion. Parce que Marc Bergevin a dit qu'il fallait attendre peut-être que toutes les équipes soient éliminées pour parler à tout le monde. Puis, un des gars qui peut pas parler en ce moment, c'est Julien Brisebois, qui aura peut-être du matériel dont il voudra se départir, dont Stamkos. Beaucoup de choses à considérer. Encore 4 années à son contrat, en incluant celle qui commencera en principe d'une semaine à l'autre, mais on parle de décembre ou plus tard.